Tous les premiers mercredis du mois sur Radio Grenouille entre 18 et 19h, c'est Sirène Blabla, une émission qui parle de création artistique pour l'espace public, imaginée en partenariat avec Lieu Public, qui est le centre national de création pour des arts de la rue, qui se trouve à Marseille. Chaque émission a lieu sur une thématique différente. Ce soir, nous allons aborder en compagnie de 6 intervenants un phénomène qui semble se développer depuis plusieurs années, qui est celui de proposer à des artistes de rencontrer d'autres artistes ou d'autres personnes issues de secteurs qui ont à voir avec l'artistique ou le développement urbain, et de décrire ensemble des projets ou d'essayer en tout cas de le faire. Donc il y a Lieu Public développe plusieurs de ces dispositifs depuis maintenant une dizaine d'années. C'est des dispositifs qui rentrent en écho avec des choses qui peuvent se passer notamment à Londres, à Liverpool pardon, à Copenhague ou ailleurs, ou à Eurol qui est une île au nord de l'Europe. Donc en studio ce soir, nous avons 3 intervenants. Fabienne Ollanier qui est responsable de projet à Lieu Public. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir.
Franck Beauchard, qui est le directeur artistique de la Chartreuse à Villeneuve-les-Avignons, qui est un centre de résidence artistique. Bonsoir Franck Beauchard.
Bonsoir.
Et Alain Baucher, qui est le directeur artistique d'Artonic, une compagnie indépendante du spectacle vivant. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Dans une quinzaine de minutes, on aura également au téléphone 3 autres intervenants. Jean-Sébastien Steil, qui travaille au sein de Lieu Public et qui est le coordinateur du réseau In-Situ, qui est un réseau pour la création artistique pour l'espace public européen. Catherine Verwildt, qui est la co-directrice du théâtre international contemporain à Copenhague, qui mène une action qui s'appelle Métropolis, qui se déroule sur 10 ans entre une biennale et des laboratoires Métropolis, elle appelle ça comme ça, elle nous en dira plus tout à l'heure. Et il y aura également Kurt Démé, qui est un artiste, il est directeur artistique de la compagnie Rod Boom, il était l'un des apprentis de la FEAR en 2008-2009. Et ils sont tous les 3 à Nierpelt en Belgique, où ils participent à un séminaire qui s'appelle « Les artistes parlent aux artistes ». Donc ils nous diront un peu qu'est-ce qui est en jeu là-bas, comment ça se passe et, voilà, et différentes questions qu'on pourra leur poser. Mais pour commencer, Fabienne, donc j'indiquais un peu une question, l'impression que depuis une dizaine d'années se développent ces dispositifs de mise en connexion d'artistes entre eux ou d'artistes avec d'autres acteurs de la ville, ou des connexions artistes avec des producteurs, des diffuseurs, tout ça sur des modes un peu spécifiques. Et il me semble que le premier dispositif que Lieu Public a mis en place autour de ça, c'était le remue-ménage au début des années 2000.
Oui, remue-ménage a été, la première édition a eu lieu en 2001. Donc c'est Pierre Sauvageau qui a créé ce dispositif en arrivant donc à Lieu Public avec Savine Reynaud qui travaillait à ce moment-là à Lieu Public également. Et l'idée de remue-ménage, c'était d'inviter des artistes à se parler entre eux. Le remue-ménage, ça rentre vraiment dans le cadre des dispositifs d'accompagnement à la création, qui est le métier premier de Lieu Public. Et ce dispositif, c'est réunir 5 artistes, cinq équipes artistiques pendant 4 jours. Et à un moment où le projet est vraiment à sa genèse, le projet artistique est encore à l'état d'idée, il n'est vraiment pas rentré encore en phase de production. et de mettre en débat et en questionnement tous ensemble, c'est chacun de ces projets. Ce dispositif, c'est donc ces 5 porteurs de projets. On invite aussi 4 autres personnes qui sont un peu des regards extérieurs, des gens qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec avec le la production de spectacles vivants, notamment un scénariste de cinéma, un scénographe de théâtre, une journaliste, et la plupart du temps on invite aussi un directeur de structure, donc un directeur de théâtre ou de festival. Et pendant ces 4 jours, on va échanger autour de chacun des projets. Donc l'idée, c'est pas de faire en sorte que les artistes créent quelque chose tous ensemble, c'est ils viennent vraiment chacun avec leur propre projet et le mettre en questionnement.
Comment sont choisis les artistes qui participent à ces remue-ménages ?
C'est un savant mélange entre...
Je pensais pas t'embarrasser, excuse-moi.
Non, c'est pas, ça m'embarrasse pas. Après, c'est assez complexe, en fait, parce que c'est à la fois choisir l'artiste en fonction de où en est le projet. Donc, faut pas que le projet soit trop avancé, parce qu'on peut plus le mettre en discussion, ça devient trop délicat, c'est trop fragile. Donc, il faut trouver déjà le bon moment. En général, le remue-ménage a lieu à l'automne, au mois de novembre. Donc, il faut qu'au mois de novembre, l'artiste soit prêt à remettre tout ça en discussion, à remettre son projet à plat, et qu'il ait envie de ça. Et qu'il ait le temps aussi de l'échange avec les autres artistes, donc de s'intéresser aussi au projet des autres. Voilà, ça, c'est cette notion de la période à laquelle on est le projet est importante. Et puis ensuite, c'est aussi comment on compose le groupe. Sans être, on n'est pas dans des quotas, à remplir des quotas, mais on fait attention que les 5 artistes aient quelque chose à voir entre eux, mais ne soient pas non plus sur les mêmes champs. Voilà un peu comment on choisit les projets.
Il y a eu combien d'éditions de remue-ménage jusqu'à aujourd'hui? Un par an?
Un par an.
Ah oui, d'accord.
Ouais, c'est un par an.
Et ça se passe à Pignan en Corse?
Oui.
Pour quelle raison?
Parce que c'est très beau. L'idée aussi, c'est d'amener les artistes dans une sorte d'isolement. C'est vraiment de les sortir de leur quotidien. Et nous aussi, parce qu'il y a aussi les membres de l'équipe de lieux publics, c'est aussi de nous sortir de notre quotidien et d'être concentré pendant ces 4 jours vraiment sur ces projets-là. Il y a Wi-Fi qui arrive jusqu'à Pignan, mais jusqu'à il y a 2 ans, il n'y avait pas.
Mais il va falloir trouver un autre endroit.
On va rester à Pignan on est accueillis là-bas à la Casa Musicale, qui est un lieu de résidence aussi, un lieu de résidence de musiciens. Tony Casalonga qui a créé ce lieu-là et fait aussi partie des regards extérieurs, donc invité à participer à Remue Ménage. Pignan, c'est un site, c'est un village confortable pour pouvoir travailler. On y mange bien, on a une belle vue et on peut se concentrer sur le travail. Donc ça peut paraître un luxe, mais en même temps, c'est des vraies conditions de travail, quoi.
Alain, tu es le directeur artistique de la compagnie Artonic, je rappelle, je le disais tout à l'heure. Donc, tu as participé en 2001 à la première session des remue-ménages. Qu'est-ce qui t'a amené à participer à ça?
Alors, je vais juste une petite précision. Je suis le co-directeur, puisque Caroline Selig, qui est pas là aujourd'hui, co-dirige cette compagnie avec moi. Écoute... D'abord, Pignan, c'est effectivement un lieu exceptionnel. C'est-à-dire que on sort complètement du cercle marseillais, et puis on est au mois d'octobre comme ça sur une autre planète. Donc, Pignan, c'était la première édition pour nous, mais c'était la première édition pour Remue Ménage également. Donc, il y avait certainement des petites choses à caler. C'était 2001. C'est assez loin pour moi, et pour tout te dire, ça a donné suite à un spectacle qui a fait un flop assez international. Donc, voilà. Après, non, ce que
c'est la faute au remue-ménage, le flop?
Non, c'est pas la faute à remue-ménage, c'est la faute à moi. Non, ce qui est intéressant dans ce type de dispositif, c'est qu'effectivement, les artistes, quand ils se rencontrent, généralement, ils parlent des difficultés de la production, des difficultés de la diffusion, mais jamais, sauf à de très très rares exceptions près, quand il y a des liens assez forts qui unissent les artistes entre eux, ne parlent d'artistique. Parce que il y a une pudeur à parler de l'artistique, à débattre sur cette chose-là, et finalement on n'en parle jamais. Donc c'est vraiment le lieu où on peut se questionner autour de ça. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé de frappant à Pigna, c'est que finalement le dispositif tel qu'il était conçu à l'époque était donc assez cadré, hein, finalement, puisqu'il y avait les intervenants extérieurs, on va dire, les regards extérieurs, et puis les artistes qui parlaient de leur projet, etc., et qui étaient questionnés là-dessus, et par les regards extérieurs et par les autres artistes. Mais qu'en dehors de ces temps-là, finalement, les choses devenaient beaucoup plus intéressantes et se creusaient beaucoup plus. C'est-à-dire que ça se creusait plus à l'heure de l'apéro.
Dans les moments informels, quoi.
Oui, c'est toujours comme ça, hein, c'est toujours dans les couloirs où que ça se passe, quoi. Et c'était vraiment à ce moment-là que les choses se libéraient, parce que t'étais plus finalement dans un moment posé devant une assemblée, hein, réunie. Tu étais avec une, deux personnes comme ça, et finalement la discussion allait beaucoup plus loin.
Et du coup, ces remue-ménages, là, à partir de ce que dit Alain, est-ce que le dispositif a un peu évolué? Parce que j'imagine que c'est des choses que vous avez dû entendre dès la première édition, cette histoire de moments un peu formels, ouais. Informels. Ouais.
Oui, je pense. Enfin, alors depuis 2002, le dispositif est resté
tel quel.
Mais de 2001 à 2002, il y a eu des changements.
Des ajustements.
Donc, c'est clair que les discussions reposent vraiment sur ces règles du jeu très très précises qui ont été mises en place, et il y a vraiment un cadre de discussion. Par exemple, le premier jour, chaque artiste a 20 minutes pour exposer son projet. Et le lendemain, l'artiste porteur du projet ne va plus parler sur son projet, mais va écouter les autres qui débattent et qui racontent ce qu'ils ont compris du projet, les questions que ça leur pose. Tout le monde va débattre ensemble, sauf l'artiste en question, qui lui aura son droit de réponse le lendemain. Et là, il y aura une discussion vraiment, un aller-retour avec l'Assemblée. Et sur les moments informels, c'est vrai aussi que, en fait, pendant ces 4 jours, ça se passe tout le temps. C'est-à-dire du petit déjeuner au repas du soir, on ne fait que parler de ces projets. Et notamment, on a aussi créé des moments de récréation en début d'après-midi qui permettent ça. C'est on souffle, on n'est plus tous ensemble. Mais on peut aller, chacun peut vaquer à ses occupations et continuer la discussion individuellement, en créant son petit groupe, voilà.
Alors avant d'aller poser quelques questions aux personnes qui sont à Nierpelt, donc à Belgique, dans le séminaire Les artistes parlent aux artistes, on va finir le tour de table avec Franck Beauchard. Vous êtes donc directeur artistique de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. C'est un peu comme Pigna en Haute-Corse, c'est un lieu magnifique, un peu hors du monde, la Chartreuse.
Oui, c'était fait un petit peu pour ça, les monastères, être à l'écart du monde, mais pour essayer de le voir autrement aussi. Donc, c'est vrai que quand même cette question du monastère, du lieu par rapport à la question de la rencontre est importante, parce que un monastère, c'est vraiment une respiration particulière dans une architecture qui à la fois favorise la vie en solitaire, la vie individuelle, et qui en même temps favorise la rencontre et le collectif. Et c'est vrai que c'est un lieu qui vit vraiment dans cette respiration-là.
Et donc c'est un lieu qui depuis très longtemps accompagne les processus d'écriture selon différents dispositifs de résidence. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les dispositifs qui existent?
Alors, je vais décrire en fait deux dispositifs qu'on a. Donc il y a les dispositifs de résidence et où les artistes effectivement se rencontrent, mais c'est pas le motif premier de la résidence. Le premier motif de la résidence, c'est de faire son projet, pour l'auteur ou pour l'artiste. Et je vais parler ensuite, par contre, d'un dispositif qui est vraiment non seulement un dispositif de rencontre entre les artistes, mais un dispositif d'expérimentation entre les artistes, où ils vont faire ensemble, créer ensemble. Donc, les résidences, nous, on fonctionne par appel à projet 2 fois par an. Et on sélectionne un certain nombre de projets de résidence qui sont à la fois donc des résidences d'auteurs, mais qui sont aussi des résidences de compagnie sur 2 types de processus d'écriture, la résidence conception et écriture qui favorise les démarches interdisciplinaires de travail. Donc artistes de la scène avec d'autres artistes et parfois aussi avec des scientifiques et aussi parfois avec souvent même avec des auteurs qui travaillent dans le processus de la création au lieu de travailler en amont du processus. Et puis il y a une résidence expérimentation et recherche où là, la question est de travailler sur le lien entre une écriture et un dispositif technologique. En fait, le projet global, il est un petit peu impulsé par une utopie qui est celle d'une scène au milieu des arts, des technologies et des médias de son époque, et donc qui place vraiment la scène au carrefour de différents domaines. Cette utopie, on la met en particulier en marge dans ce qu'on a appelé les sondes, qui est un format de recherche évolutif, adapté à chacun des sujets qu'on traite. Des moments de recherche qui se font aussi devant un public, ça c'est important, et qui se fait en général à partir d'une mise en tension entre des choses qui apparaissent, entre des objets qui apparaissent contradictoires. On a travaillé par exemple sur la question du théâtre et du robot. Donc le robot au théâtre, ça fait un peu peur à première vue, mais après c'est un peu plus compliqué. Il y a des terrains de rencontre possibles parce que par exemple c'est un auteur de théâtre qui a écrit le terme de robot. Donc aujourd'hui les roboticiens travaillent sur l'émotion, le langage, l'apprentissage, et donc voilà, là il y a des terrains de rencontre du coup qui sont extrêmement féconds, fructueux entre des artistes et puis par exemple des scientifiques. Mais je pense sur ce sujet de la rencontre entre artistes et du faire ensemble, ce qui me semble très important aujourd'hui. On a notamment travaillé sur un dispositif qui s'appelle Chartreuse News Network, donc sur la relation entre le théâtre et l'actualité immédiate et le flux d'informations, et qui est né en fait d'un désir de rencontre d'artistes qui étaient programmés au Festival Hybride de Montpellier, qui travaille sur cette question du théâtre et des médias. Et pour qu'ils puissent travailler ensemble, on leur a proposé un dispositif qui consistait à créer des journaux théâtraux à toutes les heures des journaux télévisés. Et donc l'année dernière, ils ont travaillé comme ça pendant une semaine, dont 3 jours de représentation publique, on n'écrit jamais un journal tout seul, c'est-à-dire que c'est par définition une écriture qui est collective. Et ces journaux théâtraux donc ont été présentés pendant 3 jours, à 7h du matin, minuit, 20h, etc. Donc c'était aussi une performance collective. Pour amener aussi le spectateur à venir voir comment le théâtre peut s'emparer du monde dans l'actualité immédiate. Voilà, dispositif qu'on va reprendre cette année au mois de mars, mais cette fois-ci en ajoutant au flux d'informations venus de la télévision, de la radio, d'Internet, des flux satellitaires. On travaille avec le Centre national d'études spatiales. Et donc, les artistes qui vont participer à cette seconde édition de Chartreuse News Network vont faire tout un parcours ensemble au Centre national d'études spatiales et puis dans plusieurs laboratoires sur Toulouse. Donc là aussi, rencontre entre le milieu artistique et un autre milieu.
Alors Franck Bourgeard, avant d'aller à Nierpelt poser quelques questions aux gens qui sont là-bas, encore 2 questions sur la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. C'est est-ce qu'il y a un rapport particulier à la création artistique pour l'espace public au sein de la Chartreuse, et est-ce qu'il y a une dimension européenne, internationale qui est travaillée?
Alors sur la première question, au Moyen-Âge, on opposait non pas la ville à la campagne, mais la ville au monastère. C'est-à-dire que le monastère, c'est par excellence l'espace anti-urbain. Et il l'est, c'est vrai, toujours aujourd'hui, parce que pour moi, l'urbain, c'est beaucoup le chaos, en fait. On ne choisit pas ce qu'on vit dans une ville. Dans un monastère, il ne peut rien vous arriver, sinon d'être submergé par vos propres fantasmes, hantises, etc. Donc c'est un espace qui est vraiment ordonné, en fait. Et donc c'est pas un espace favorable en soi pour faire, je dirais, des arts de la rue, parce que c'est vraiment un espace clos, fermé, etc. Par contre, c'est un espace, je dirais, qui permet de, à toutes les équipes, qu'elles soient des arts de la rue ou d'autres, hein, mais aussi aux arts de la rue, ils viennent, hein, enfin, il y a plusieurs équipes qui sont venues, de mettre les choses à distance, en fait, parce que je trouve que c'est aussi, on pourrait dire, c'est un anti-environnement qui permet de, peut-être de voir autrement notre environnement. Et sur la question européenne et internationale, donc rapidement, oui, on accueille des auteurs et parfois des compagnies d'autres pays européens. Mais je pense que ce qui est le plus intéressant dans notre cas, c'est vraiment la mise en place de partenariats avec des structures en Europe, notamment en Suisse, où on travaille sur ces rapports entre théâtre, robotique, intelligence artificielle, acoustique, etc. Et puis en Italie, on travaille sur des questions de formation de l'acteur par rapport à ce qu'on traite dans ce qu'on fait au niveau de la recherche. Et puis, enfin voilà, c'est.
D'accord. Merci. Donc on va aller à Nierpelt. Alors théoriquement, ils sont à l'autre bout du fil. Jean-Sébastien Steil, est-ce que tu m'entends ?
Oui, parfaitement. On vous écoute.
Ah bon, super. Bon, en tout cas, bonjour. Donc vous êtes à Nierpelt depuis le début de la semaine dernière avec tout un tas de gens, d'artistes, opérateurs culturels, etc., pour qu'ils se parlent entre eux. Ça s'appelle « Les artistes parlent aux artistes ». Ceci dit, est-ce que tu peux nous raconter ça, mais avant nous dire si Nierpelt, où c'est exactement, si c'est un peu beau et un peu hors du monde, comme Pignan en Corse ou chez la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon.
Ah bah c'est on évoquait deux lieux, la Corse et la Chartreuse, qui sont des lieux de réclusion. Nierpelt, c'est un petit peu ça. On est au nord de la province du Limbourg. Nierpelt, c'est une petite ville de 15 000 habitants et qui héberge un centre provincial culturel qui s'appelle le Provincial Domain Dommelhof, et qui est le grand centre culturel de la province du Limbourg. Donc un grand centre culturel avec une hôtellerie d'une cinquantaine de lits qui met en œuvre, qui gère deux festivals biannuels, qui accueille des résidences toute l'année, qui a un théâtre, une salle de cinéma, une opération de cinéma itinérant. Donc un grand centre culturel qui rayonne sur toute la province du Limbourg. Et c'est vrai que là, on est dans cette ville sous la neige, dans un espèce de temps entre parenthèses, un temps de rencontre entre artistes et organisateurs européens.
Alors, au sein du réseau In Situ, depuis plusieurs années, il existe les Hot House, qui sont un peu des remue-ménages version européenne. Est-ce que tu peux nous parler de ce dispositif et nous dire en quoi les artistes parlent aux artistes et différents ou nouveaux de ces Hot House?
C'est une version un petit peu renouvelée, ce séminaire Les artistes parlent aux artistes. C'est un petit peu une amélioration de la formule des Hot House et puis un élargissement géographique du spectre des artistes avec lesquels on travaille, puisque jusque-là, les Hot House réunissaient une dizaine de pays, mais très représentés surtout des pays de la vieille Europe, quoi. Et cette année, il y a un équilibre plus intéressant entre les pays d'Europe occidentale et les pays d'Europe centrale, puisqu'on a 12 pays représentés, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Autriche, la France et la Grande-Bretagne, mais aussi des nouveaux partenaires du réseau In Situ et des artistes invités par ces partenaires de Slovénie, de Slovaquie, de Hongrie, de République tchèque et une artiste russe qui vit aux Pays-Bas.
Bien. Quels sont les objectifs de ces rencontres ?
L'objectif, c'est vraiment de, de s'affranchir un peu de la culture du résultat. C'est-à-dire que, généralement, dans les rencontres entre artistes et professionnels, il est question d'acheter ou de vendre un spectacle, de se mettre en représentation, de convaincre de l'excellence de son projet artistique et son adéquation au choix du programmateur. Là, précisément, on essaye de faire un pas de côté par rapport à ce code. Il n'est pas question de production, il n'est pas question d'économie du spectacle, comme souvent dans les rencontres professionnelles. Il n'est pas question de vendre ou d'acheter un spectacle, mais plutôt de mettre en débat des projets artistiques en construction. C'est-à-dire que les 17 artistes présents sont porteurs d'un projet futur, d'un projet en construction, sur lesquels ils ont encore un certain nombre de doutes, de questions que précisément on met en discussion. Et ce qui est intéressant, c'est pas tellement l'expression des doutes individuels, c'est de voir que ces questionnements se croisent. Et finalement, on arrive à évoquer des problématiques communes sur... puisqu'on est dans l'art en espace public, sur ce qu'apporte l'architecture, l'urbanisme, la façon dont une fiction urbaine tisse avec l'histoire sociale du lieu, avec un espace, d'autres questions sur la relation au public, sur la façon de convoquer le public ou d'intervenir plus spontanément dans la vie de la ville. Des questions nombreuses sur la traduction du spectacle et puis son adaptation possible dans d'autres contextes. Voilà, tout un ensemble de questions dont on débat, dont on discute, à partir de propositions concrètes portées par les artistes.
Est-ce que la dimension européenne de ces discussions met en lumière des différences d'approche de toutes ces questions que tu viens d'évoquer sur le rapport au public, le rapport à l'architecture, tout ça? Est-ce qu'il y a vraiment des différences d'approche selon les cultures, l'ancienneté des arts de la rue dans certains pays ou pas, ce genre de choses-là?
Alors, déjà, c'est vrai que la question européenne, elle questionne la définition même des arts de la rue, c'est-à-dire que si en France ou en Espagne existe comme ça une catégorie art de la rue qui est assez lisible, assez référencée institutionnellement, parce qu'à un moment il y a eu des dispositifs de soutien qui ont créé cette catégorie, et puis des artistes qui l'incarnaient, dans d'autres contextes, cette catégorie n'existe pas. Il n'y a pas d'art de la rue en Bulgarie, il n'y a pas d'art de la rue en Hongrie. Par contre, en Bulgarie et en Hongrie, on va rencontrer des artistes qui ponctuellement, mais pas nécessairement toute leur vie artistique, mais qui ponctuellement vont choisir de s'intéresser à l'espace public, d'aller le questionner. Et c'est précisément là qu'on intervient, et là qu'il y a une possibilité de rencontre entre les différents artistes, quoi.
Jean-Sébastien, pour terminer avec toi, après on va poser quelques questions à un artiste justement qui participe à sa rencontre, Kurt De Meij, mais pour terminer, sa rencontre se déroule jusqu'à quand? Quel est le...
En fait, on a commencé mardi. Hier, tout le monde est arrivé avant-hier soir. Alors, c'est une espèce de grande colonie de vacances, et on est ensemble pour 4 jours pleins de discussions à partir de protocoles assez précis, puisqu'on commence le matin par des présentations de projets en séance plénière, et puis avec traduction simultanée en cabine, et puis l'après-midi on se répartit dans des workshops, dans des ateliers, d'abord des workshops individuels, puis des workshops qui vont croiser 2 artistes, puis 3 artistes, et puis il y a aussi tout un temps de rencontres informelles qui est fondamental dans ce genre de rencontres, parce qu'on vit vraiment ensemble pendant 4 jours, quoi. Donc c'est un espèce de grand chaudron comme ça, de 4 jours de discussion sur le champ des propositions artistiques. C'est un temps entre parenthèses où on réfléchit et où on essaye d'avancer ensemble.
Merci Jean-Sébastien. Est-ce que tu peux me passer court, s'il te plaît?
Je passe tout de suite. Bonjour.
Bonjour Court, ça va?
Oui, c'est ça.
Donc, tu es le directeur artistique de la compagnie Rode Boom. Ça veut dire quoi, Rode Boom?
Oui, ça veut dire Herbe Rouge. c'est flamand pour la Bredouche. Voilà.
Bon, on est beaucoup plus avancé. Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir travailler en plein air, pour l'espace public, tout ça? Est-ce que tu peux nous raconter ça?
J'ai pas compris la question.
Pourquoi tu as décidé de travailler pour l'espace public, pour la ville, en tant qu'artiste?
Oui, voilà. Un moment, c'était un choix. C'était, je viens d'art plastique, et voilà, il y a un moment que j'ai commencé de faire des propositions dans l'espace public, et assez tôt aussi faire des performances, et voilà, petit à petit, je suis tombé dedans, et en plus, oui, dans mon recherche artistique et dans qu'est-ce que moi je trouve intéressant, dans l'espace public, un espace institut, c'est les histoires. Tout qu'on peut chercher, c'est déjà là. Voilà, on juste met un espace dans un autre état.
Quel est le projet dont tu parles, que tu présentes pendant ces rencontres à Nierpelt?
Quel projet?
Oui.
En ce moment, je travaille sur une série des œuvres qui s'appelle Évidence inconnue. Voilà, le titre dit déjà qu'est-ce que je cherche. Et c'est maintenant la deuxième proposition de cette série, c'est La ville qui respire. Et là-bas, on va chercher des phénomènes dans la ville. En fait, on demande est-ce que l'homme a construit une ville ou est-ce que la ville construit aussi l'homme, comment une ville manipule l'homme. Ouais.
Et quelle réaction suscite ce projet au sein des participants?
Oh oui, voilà, bien. En fait, en ce moment, nous sommes dans une... Ah oui, on discute. Ce sont tous des projets nouveaux. Et je pense que tous les projets sont intéressants en ce moment. Nous sommes dans les discussions. J'ai eu des bonnes réponses, ouais.
Qu'est-ce que tu attends, toi, de ces rencontres?
Qu'est-ce que j'entends, c'est ça?
Non, qu'est-ce que tu attends?
Qu'est-ce que j'attends?
Oui.
Oui, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce qui est intéressant, c'est, un, les rencontres avec des autres artistes, qu'on peut vraiment discuter différentes choses. Un, nos projets, deux, les doutes, trois, le monde, théâtre de rue ou art de la rue ou art institut, ça, mais aussi avec les professionnels, avec des festivals, parce que voilà aussi eux ils discutent directement dans nos propos vraiment voilà qu'est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce que j'attends là, c'est pas vraiment des réponses mais c'est des questions, voilà, des rencontres.
Ok, merci Kurt. Est-ce que tu peux me passer Catherine, s'il te plaît? Catherine Verwilt.
Oui, allô?
Allô, bonsoir Catherine Verwilt. Vous êtes la co-directrice du Théâtre International Contemporain de Copenhague, le KIT.
Oui.
Je crois. Vous organisez depuis... le théâtre est à l'initiative d'un projet qui va se dérouler sur 10 ans, qui a commencé en 2007 et qui va se dérouler jusqu'à 2017, qui s'appelle Métropolis, alors qui est en deux volets. Il y a à la fois une biennale et à la fois un laboratoire. Donc je vais vous demander de nous parler de ça, parce qu'il me semble que là aussi, vous essayez de provoquer moult rencontres entre artistes et acteurs urbains. Mais avant, peut-être pour nous dire, peut-être dire deux mots de ce théâtre international de Copenhague, quelle est sa programmation, depuis quand il existe et quel est son lien avec ce qu'on appelle en France les arts de la rue? Est-ce que vous appelez peut-être site spécifique ou je ne sais plus quoi?
Copenhagen International Theatre, c'est pas un théâtre, tout d'abord. On n'a pas de bâtiment, on est une organisation qui existe depuis 30 ans et dont la mission est c'est qu'on a organisé des festivals pendant l'été où on présente où on invite les arts de la scène internationaux contemporains. On a eu différents types de festivals au cours de ces 30 ans, dépendant des tendances qu'on voit dans les arts. On a eu, par exemple, le festival sur l'image de l'Afrique ou la danse contemporaine fin des années 80 avec grand focus sur la danse française à ce moment-là. Mais en 2007, on a changé de focus. On voudrait, comme on n'a jamais eu un théâtre, un bâtiment, et que la situation à Copenhague avait changé, on a décidé de faire de la ville notre théâtre. Et c'est de là où est née Métropolis. Je dois aussi dire que déjà dans toutes ces années-là, on a travaillé beaucoup avec des... où on a présenté beaucoup de travail in situ. Déjà dans les années 80, on faisait ça avec du Bouteau. Mais là, c'était dans les années 80, c'était plus ce que moi j'appelle art de la rue, où Métropolis, je dirais que c'est plutôt un focus sur art dans l'espace public. Métropolis est aussi née du fait que on trouve que dans les villes qu'on crée maintenant, que l'artiste peut jouer un rôle plus important à des stades, au tout début, parce que c'est pas seulement aux architectes de bâtir nos villes, mais que les artistes peuvent jouer un grand rôle là-dedans pour créer aussi une vie dans ces villes. Et voilà, c'est de là qu'est née Métropolis.
Et donc, il se passe quoi exactement dans ce Métropolis?
Ouais. Alors, donc Métropolis est une biennale, donc le festival avec des présentations, des spectacles, des productions, c'est pour un public, c'est chaque deux ans. L'année avant, on organise ce qu'on appelle un Métropolis Laboratoire, qui est un laboratoire où on invite des artistes à venir présenter des projets, mais également des architectes, des sociologues, des philosophes qui ont des idées sur nos villes, comment créer une ville créative, une ville qui vit, une ville qui bouge. Et dans ces laboratoires, c'est comme une préparation pour l'année après, parce que les projets qu'on invite, pas tous, mais on essaye qu'ils donnent vraiment un commentaire sur Copenhague, sur un certain quartier, sur une certaine rue, sur les gens qui vivent là-bas. Donc, que la pièce d'art qu'on invite, que ça fait vraiment partie de la ville, ou comment donne un commentaire sur la ville.
Est-ce que ces discussions entre tous ces différents acteurs de la ville, on va les appeler comme ça, qu'ils soient artistes, architectes, urbanistes, tout ça, se déroulent facilement, ou est-ce qu'il y a vraiment des approches, comme on pouvait le dire, sur la dimension européenne, qui sont très très différentes, les mots n'ont pas le même sens pour les artistes et pour les urbanismes, ce genre de choses-là. Quel dispositif, comment vous essayez de favoriser un peu ces discussions?
On sent toujours qu'on est au début là-bas, que donc maintenant on a eu la deuxième édition de Métropolis. C'est pas très évident encore de faire travailler ensemble artistes et architectes. Ça commence tout doucement, mais c'est pour ça aussi que c'est un projet de 10 ans à développer. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment eu encore, par exemple, un artiste danois qui travaille avec un architecte français. On espère qu'au bout de ces 10 ans, on va arriver à de tels projets aussi. dans le laboratoire qu'on fait, qui est comme une conférence de 3 jours où il y a peut-être 100 personnes, 50 invités, des gens qui donnent des interventions. Là, on commence tout doucement à avoir ce network et que les artistes s'intéressent aux architectes et vice-versa.
Copenhague a été capitale européenne de la culture, je crois, en 2000, si je me souviens bien, ou peut-être...
En 96.
Ouais. Quel a été l'impact de cet événement sur la ville? Est-ce qu'il y a toujours des traces aujourd'hui de cette capitale européenne de la culture en 96?
Oui, je trouve qu'il y a encore des traces. Il y a certaines institutions qui se sont créées, qui... vieux abattoir qui est devenu un lieu culturel, maison pour la musique, pour des concerts et tout ça, un super lieu avec une grande renommée.
Ça a modifié la politique culturelle de la ville.
Pas la bonne à demander. Je dirais non pour le moment, parce que je trouve pas que Copenhague, ils ont une bonne politique culturelle. Donc là, je trouve que non. Mais les gens, ils ressentent toujours les effets de la capitale culturelle.
C'est-à-dire que ça a changé le rapport des habitants à la culture, à leur propre ville?
Oui, je crois que oui. Je trouve que, parce que moi je suis belge en fait, donc je suis arrivée à Copenhague début des années 90, et je trouve que depuis que je suis là, ça a beaucoup changé Copenhague comme ville. Plus branchée, plus culturelle, oui.
D'accord.
Plus ouvert à l'international aussi.
Une dernière question, Catherine Verwildt, avant qu'on revienne à Marseille. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces rencontres Les artistes parlent aux artistes qui se déroulent en ce moment à Nierpelt et dont vous faites partie?
Oui, mais c'est fascinant d'être là avec 40 personnes de 17 pays, avec des projets très très différents les uns des autres, et c'est une énorme source d'inspiration, d'échange, de networking, aussi pour l'artiste que moi j'ai pu emmener, d'avoir cette rencontre et confrontation avec l'international aussi, avec d'autres artistes avec lesquels elle peut avoir des affinités ou pas. Donc c'est ça ce qui est fascinant avec ce projet ou ce laboratoire ici à Nierpelt.
Eh ben, bonne continuation alors dans ce laboratoire à Nierpelt. Merci Catherine Verwildt d'avoir répondu à ces questions. On revient à Marseille, mais avant, pour quitter la Belgique, on va écouter un peu de musique belge. Arnaud.
Thank you. ce pied-estec, d'aucun de pédestal. Mon accadine ne vigueur-estec, d'aucun de pédestec. A sauté l'oro, yo, avant de l'oro, yo, au sauté l'oro, yo. Ze peesde dat de roste was. Ze was de daspel, maar doet de javel. Je kost niet zien dat de roste was. En stond je rood op? Ja. En wat die lange? Ja. Was stond je rood op? Ja. En wat die lange? Ja. Het was ongeluk schapen, je hing dus onhappen. Je sloeg op de bellen en alles lag stellen, op de blote bellen. En zoek de rood op, jood, en van die lange, jood, jood, jood. Geel het boek in de
le fantastique Arnaud sur les 3-8 de la grenouille. Vous écoutez Sirène Blabla, une émission sur la création artistique dans l'espace public, imaginée en partenariat avec Lieu Public depuis plusieurs mois maintenant. Une émission qui se déroule d'ailleurs d'habitude en public et en direct du Longchamp Palace. Mais ce soir, compte tenu de l'insert téléphonique qu'on souhaitait réaliser avec les trois personnes qu'on a entendues juste avant la musique et qui étaient à Nierpelt, donc à la frontière de la Belgique et des Pays-Bas pour ce séminaire des artistes par les artistes, on a choisi le studio de la Grenouille, plus confortable pour ce genre de performance technique. Avec moi donc, on retrouve Fabienne Olanier qui est responsable de projet à Lieu Public, Franck Beauchard qui est le directeur artistique de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon et Alain Baucher qui est le directeur artistique d'Artonic. Alors bon, l'heure est bien avancée, je pensais de poser une question sur, mais on peut peut-être la poser en essayant d'aller assez vite, mais après il faudra peut-être terminer sur une sorte de bilan de tous ces dispositifs qui, ça fait maintenant une dizaine d'années que ça existe au sein de Lieu Public, un peu les points positifs et les points négatifs qu'on peut en retenir. Alain Boucher en disait quelques-uns tout à l'heure, mais on imagine souvent que le moment de l'écriture dans un processus de création, c'est un moment fragile pour l'artiste. Est-ce que c'est curieux de ce moment-là de le mettre justement en face de toute une série de remises en question potentielles, de questions, de fragilisation finalement peut-être du projet à sa toute naissance. Alors est-ce que c'est une contradiction qui n'est qu'apparente ou est-ce qu'il y a de vraies questions, Alain, peut-être en tant qu'artiste? Toi, est-ce que ce moment de l'écriture d'un projet au tout début, est-ce que c'est un moment fragile pour toi ou pas? Est-ce que c'est un moment adapté pour répondre à tout un tas de questions sur les tenants, les aboutissants, ce genre de choses-là?
C'est vrai que c'est déjà, c'est souvent très très compliqué de parler d'un projet. Parce qu'à la fois on peut en avoir une idée très très précise et à partir du moment où on commence à creuser, on voit bien que la chose est beaucoup plus complexe et que les contours deviennent beaucoup plus flous. Donc c'est jamais simple de trouver véritablement les mots justes. En même temps, je pense qu'il est nécessaire d'avoir un axe très très fort sur lequel on dirige le projet et que là on sache très très bien où on veut aller. peut-être pas dans la mise en forme, peut-être pas dans les moyens, mais en tout cas donner une vraie direction. Et à partir de ce moment-là, on peut peut-être commencer à en parler plus facilement. Mais c'est vrai que c'est jamais facile d'en parler, même d'accepter, entre guillemets, ou de recevoir des retours, parce qu'on est empêtré en même temps dans un certain nombre de certitudes, d'évidences et de contradictions. Et puis à la fin de tout ça, on se retrouve avec une somme de possibles et qui clarifie pas forcément la situation. C'est-à-dire que ça ouvre des champs, ça ouvre des questions. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Après faut trier, faut faire le tri, puis poursuivre dans l'axe de la recherche. Quoi.
Fabienne, ce ressenti d'Alain, toi tu as suivi, je crois, à peu près tous les remue-ménages, peut-être même pas à peu près totalement.
Sauf celui d'Alain.
Est-ce que ce ressenti d'Alain, c'est quelque chose qui est ressenti par les autres artistes? Enfin, quel bilan toi tu peux faire de ce dispositif, s'il y avait des points négatifs et positifs à...
Bon, pour revenir sur le mot de fragilité, moi j'ai l'impression que la fragilité, finalement, elle est tout au long du processus de création. Donc je suis pas sûre que cette phase d'écriture soit un moment particulièrement difficile ou fragile pour les artistes. Après, je pense aussi, pour revenir un peu sur ce que disait Alain, que les doutes ou les certitudes sont en effet peut-être un peu mises à mal ou mises en débat, mais qu'on peut repartir de, qui peuvent repartir de remue-ménage aussi avec des fortes convictions et des confortations, ça se dit?
Ouais. Sûrement.
Conforté, voilà. J'espère que les Belges m'ont compris. Après le bilan de remue-ménage, bon, c'est quelque chose qu'on continue. C'est un moment très riche, je crois, pour les artistes. À chaque fois, ceux qui ont participé, certains même demandent à y reparticiper 2 ans plus tard quand ils ont à nouveau un projet en création. Je pense que c'est un moment particulier. C'est un dispositif, un temps dans la production. Ça ne suffit pas, ça remplit pas toutes les cases, ça répond pas à toutes les questions.
Et ces moments de discussion, juste pour revenir à ce que disait Alain aussi tout à l'heure, jusqu'à ces dispositifs, elles n'avaient pas lieu, ces discussions, Alain.
Mais moi, je sais pas, j'ai fait la première, donc je peux pas te dire comment ça se passe.
Non, mais en dehors de ce dispositif, ces discussions avec d'autres artistes sur le sens d'un projet, sur l'écriture d'un projet, tout ça n'avait pas lieu.
Mais si, ça
tu toujours... parlais de pudeur tout à l'heure artistique qui empêche les artistes d'aborder directement des...
Oui, parce que encore une fois, tu travailles pas les mêmes choses, tu travailles pas sur les mêmes champs, sur les mêmes territoires et c'est jamais simple de t'adresser toi en tant qu'artiste à un autre artiste. Voilà, il y a aussi cette pudeur là. C'est pas simple à entendre, c'est pas simple à livrer. Mais bon, ça arrive. Ça, bien sûr que ça arrive, heureusement.
Ah, ouais. Il y a des barrières à faire tomber, et donc juste pour signaler une expérience qui se passe à Liverpool avec le Metal Project, eux, pour faire tomber ces barrières entre artistes ou entre artistes et architectes, urbanistes, enfin des gens qui ont à voir avec la ville, mais même d'autres gens, le public, tout ça, ils font faire la cuisine à tout le monde et ils font manger. Il paraît que ça casse un peu les barrières, ça permet de dialoguer plus librement. Alors peut-être pour terminer, Franck Bouchard, vous les résidences que vous décriviez tout à l'heure, je crois que c'est quelque chose que vous avez mis en place à votre arrivée à la Chartreuse. Ça fait 3 ans, donc c'est un changement. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui en faire un bilan rapide? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes engagé que vous remettez en question? Est-ce que non, c'était la bonne piste, ça produit des choses intéressantes?
Le projet actuellement, il est en plein développement. et le développement passe en grande partie par la partie la plus expérimentale du projet. Moi, pour rebondir par rapport à ce qui, par rapport à la discussion, moi, je pense qu'il y a un besoin très important aujourd'hui des artistes de se rencontrer, de confronter leurs démarches, de confronter leurs réflexions.
Pourquoi ?
D'être, parce que je pense que les artistes dans le spectacle vivant, c'est de la production et de la diffusion. Et finalement, dans ces actes-là, les artistes sont très isolés, je crois, et qu'il y a un besoin à certains moments de, voilà, de vraiment de faire d'être dans un autre espace-temps. De prendre le temps et de prendre le temps de la rencontre en particulier. Et je pense que ce temps-là, il peut être comme remue-ménage en amont du processus, enfin dans le départ du processus de création. Et on pourrait l'imaginer aussi après. On peut l'imaginer, comme pour moi, encore avant. C'est-à-dire, nous, on est un peu finalement dans l'amont du commencement. C'est-à-dire, nous, à partir des sondes, il y a des projets de création qui sont nés à partir de là, en France, à l'étranger. Je pense notamment on avait fait quelque chose sur Beckett et Robot qui a avec un artiste flamand Chris Ferdon qui a voilà qui est devenu depuis un spectacle. Des auteurs ont changé voilà leur processus d'écriture et on a fait pas mal de choses sur l'écriture et Internet. On a passé des comptes d'écriture collaboratifs etc. Parce que je pense aussi il y a besoin de cadres collectifs et il y a aussi besoin de cadres collaboratifs. C'est-à-dire que je pense qu'on est amené aujourd'hui à travailler de plus en plus en horizontal et non pas dans des rapports comme ça, hiérarchisés, etc. Et avec un petit peu comme avec Internet où chaque point peut raccorder, peut raccorder potentiellement tous les autres. Et chaque projet finalement fait une sorte de configuration originale entre des points qui peuvent être très hétérogènes et distants les uns des autres. Ce qui est important, c'est de voilà, c'est d'avoir
la
cette
connexion.
Liberté. Voilà, exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, chaque projet est un ensemble de connexions qui peut passer par des disciplines très différentes, par confrontation avec la science, etc. Et c'est ce qu'il faut, à mon avis, favoriser aujourd'hui. Voilà.
Eh ben, on va dire que ça sera le mot de la fin. Elle est jolie. Donc, merci beaucoup, Franck Bouchard, Alain Baucher, Fabienne Olagné, d'avoir participé à cette discussion. Merci aussi aux trois personnes, Catherine Verwildt, Kurt Démé et Jean-Sébastien Stel, Anne Hirpel, qui était avec nous tout à l'heure au téléphone. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. C'était donc Sirène Blabla. Un rendez-vous tous les premiers mercredis du mois sur la Grenouille entre 18 et 19. À suivre sur les 3-8 l'émission Bienvenue au Club qui sera ensuite suivie de Basse Fréquence. Et je profite du micro pour vous signaler que demain à 19h il y aura la présentation du livre La beauté du geste de Marc Kerr au Lièvre de Mars rue des Trois Rois. Donc c'est à la Plaine et c'est un livre et un artiste qui valent le détour.